Vous écoutez RTL.
RTL. Il est 9h.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Le cinéma français est à l'honneur aujourd'hui au Festival de Cannes. Vincent Lindon entre en compétition avec le film En guerre de Stéphane Brisé. Nous retrouverons une partie de l'impressionnant casting du film Le Grand Bain de Gilles Lelouch présenté hors compétition. Et on rejoint Anthony Martin et Stéphane Boutsock dans un tout petit instant. Quels sont les nouveaux mots des éditions 2019 des dictionnaires et qui a l'honneur d'entrer dans le Larousse? C'est le reportage à suivre de Laurent Marsic. À la télévision ce soir, des personnalités jouent les candidats du programme d'aventure d'MC The Island. Ce sera l'un des choix d'Isabelle Morini-Bosc. Et puis nous partirons en promenade dans les jardins du château de Chaumont-sur-Loire en compagnie de Sophie Orange.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
RTL.
Tu les aimes?
Festival de Cannes 2018.
C'est l'8e jour du Festival de Cannes. Nous partons pour la croisette comme chaque matin, retrouver Stéphane Boutsock et Anthony Martin. Bonjour les garçons.
Bonjour.
On parle d'abord, Stéphane, de l'événement d'hier soir, le nouveau film de Lars von Trier. Vous nous annonciez hier matin un choc à venir. Alors,
oula, le choc a été au rendez-vous, salué par une très longue ovation. Il était 1h30 du matin quand la lumière s'est rallumée. Certains spectateurs, autant le dire, avaient quitté la salle. Pas beaucoup, mais quand même, en cours de route. Parce que c'est vrai, la maison que Jack a construite, c'est le titre du film, réserve quelques séquences presque insoutenables. On y suit 5 des meurtres d'un terrifiant tueur en série, joué par un impressionnant Matt Dillon, qui tue des femmes, des hommes ou des enfants pour ensuite mettre leurs cadavres en scène dans de sordides représentations artistiques sans jamais ressentir la moindre compassion. Regard glaçant, glacé sur le mal absolu que Lars von Trier n'excuse ou n'explique pas, mais qu'il montre en le renvoyant au travers de certains de ses congénères humains, si l'on peut dire, comme Hitler, Staline ou Mao. Alors, le film n'est pas en compétition, il n'a pour l'instant pas de date de sortie. On va en reparler demain puisque je rencontre tout à l'heure Lars von Trier et Matt Dillon, et notamment de ce qui risque de faire parler après l'autre projection ce matin, réservée à toute la presse, la manière dont les femmes sont traitées, maltraitées, mutilées par le psychopathe du film.
Alors le tout, rappelons-le, dans une édition du festival qui ne cesse d'envoyer des signaux forts en direction des femmes, Anthony.
Oui, avec un pas de plus hier, le festival, sa présidente Cate Blanchett et les sections parallèles ont été les premiers signataires d'une charte en faveur de la parité femmes-hommes dans le cinéma. Il y a encore du chemin à faire, dit la comédienne Frédérique Bell, qui fut à ses débuts, on s'en souvient et on le rappelle, l'héroïne caricaturale et écervelée de la série de sketch La Minute Blonde.
Je pense qu'il était temps qu'on nous fasse de la place. Maintenant, voilà, c'est un métier où certains sont bankable, comme on dit, et d'autres non. Donc c'est compliqué de dire que tel homme ou telle femme mériterait tel ou tel salaire. C'est encore quelque chose un peu de nébuleux. Et donc c'est quelque chose, à mon avis, on n'aura jamais vraiment la possibilité de faire une parité dans le cinéma. C'est bien dommage. Maintenant, il y a quand même de plus en plus de réalisatrices femmes qui font tourner des femmes, des beaux rôles de femmes. Ce serait trop beau si toutes les actrices refusaient de jouer les passe-plats. Le souci, c'est qu'il faut bien manger. Et j'ai commencé par faire les passe-plats, donc je ne leur en voudrais pas de le faire.
Frédéric Bell au micro de Michael Lefebvre.
Voilà, et puisque nous respectons la parité, Cannes a aussi vu défiler hier une belle brochette d'acteurs. Anthony, ceux du film Le Grand Bain de Gilles Lelouch, présenté hors compétition.
Oui, avec au passage une jolie photo de famille. Hein. Benoît Poelvoorde, Guillaume Canet, Mathieu Amalric, Philippe Catherine, Jean-Hugues Anglade, Félix Moati, ils étaient bien habillés hier, mais imaginez-les à l'écran, en randonnion, au bord d'une piscine, en slip de bain, bonnet sur la tête. Dans le film, ils sont des mecs désœuvrés qui, pour redonner un sens à leur vie, décident de former une équipe et de devenir des champions d'une discipline généralement réservée aux femmes, la natation synchronisée. Mm-hmm. Alors on est clairement dans les pas du film de Full Monty, mais à la piscine, voilà, c'est drôle, l'idée fait rire, hein, c'est déjà réussi. Et pour entourer ce groupe très masculin, les actrices Marina Foïs et Leïla Bekti, qui jouent leur entraîneuse, je vous propose d'écouter une partie de cette bande de potes, ils nous sont apparus comme ça, et justement c'est Leïla Bekti qui commence.
Moi j'ai adoré tourner ce film, et on s'est pas senti en minorité, hein Marina?
Moi je pense tellement à moi-même que je me sens jamais en minorité.
C'est vrai, tu m'as appris ça en plus. Oui. Et puis moi je les ai menés à la baguette.
Et dans le film, c'est la vraie Leïla Bekti que vous voyez. Parce que vous connaissez les Géry L'Oréal. Mais la Chartière, c'est la vraie Leïla.
Gilles Lelouch.
Ils se sont énormément entraînés. Ils avaient 2 entraînements par semaine, 3 heures dans un bassin au mois de décembre, janvier, février. Bon, il n'y a plus funky.
Mathieu Amalric.
C'était une catastrophe.
On faisait énormément de musculation parce que c'est un sport qui demande de travailler absolument chaque muscle.
Pardon, mais les corps qu'on voit dans le film ne sont pas les corps de départ. Si.
Guillaume Canet.
J'en ai chié. En fait, on se rend pas bien compte, mais quand on est à la surface de l'eau, rien que de se servir de ses bras, bah on coule, quoi. Quand on voit ce qu'on avait à faire, heureusement, on a eu quelques petites aides. Ça fait partie de la magie du cinéma. Il y a eu un peu de tricherie, quand même.
Voilà les talents du film Le Grand Bain de Gilles Lelouch, avec une Marina Foïs, vous l'avez entendu, qui était très en forme. Le film a été formidablement accueilli ici à Cannes. Le réalisateur de cette comédie humaniste avait les larmes aux yeux. Il faut dire que c'est un vrai remède anti-déprime. Il sortira au cinéma le 24 octobre prochain. Mm-hmm. On aura donc le temps d'en reparler. Mais ça a tout pour être un gros succès en salle.
Ah, on va suivre tout ça. Ce mardi est marqué, lui, par l'entrée en lice du troisième film français en compétition, Stéphane. Il s'agit du film En guerre de Stéphane Brisé avec Vincent Lindon.
Oui, rappelez-vous, duo qui avait frappé très fort ici même il y a 3 ans avec La loi du marché. Au final, prix d'interprétation masculine pour Lindon. Cette fois, Stéphane Brisé propose de nous plonger au cœur d'un groupe d'ouvriers en lutte contre la direction de son usine qui veut fermer le site pourtant rentable. Film dans l'ère de notre temps mondialisé, tourné au plus près de ces femmes et de ces hommes engagés dans un combat acharné. Vincent Lindon a joué en compagnie d'acteurs non professionnels, ce qui donne à En guerre un ton authentique encore plus troublant. Quant à son interprétation, elle a un souffle, une densité dont certains diront qu'elle n'est qu'une performance, mais que je trouve, moi, vraiment bluffante, comme si Vincent Lindon s'était fondu dans son rôle en une sorte de transe.
Je me suis fait diaboliser par le rôle. J'en ai pris possession, mais plus que d'habitude, il m'a habité. J'ai l'impression que c'était un état, j'étais. Mais il n'est même plus question d'interprétation. Je pense que Stéphane a été prendre toutes mes violences, mes fureurs, mes joies aussi, mes enthousiasmes, mon envie de rassembler, mon envie de convaincre sans arrêt, convaincre jusqu'à épuisement, jusqu'à qu'on soit d'accord avec moi, même si j'ai tort. Toutes ces choses où mes copains me disent sans arrêt « Mais quelle énergie dépensée !» Mais Vincent, mais tu te rends compte de tout ce que tu déploies du matin au soir, mais toute cette énergie tu pourrais mettre ailleurs. Eh ben, Stéphane, il l'a mis ailleurs. Comme un rail, il a été à l'aiguillage, il a tiré le truc, et le train est passé sur ailleurs.
En guerre, rappelle évidemment le combat bien réel des salariés de l'usine continentale de Clairoy dans l'Oise, on était en 2010. Le personnage de Vincent Lindon ressemble beaucoup au leader syndicaliste Xavier Mathieu qui avait mené la bataille. Le film montre la difficulté de cette lutte face aux patrons, aux politiques, aux forces de l'ordre, aux médias, mais aussi au sein même des employés soumis à la fatigue et aux divisions. Mais jamais on ne sombre dans le brûlot manichéen et ça ne fait en fait que renforcer la justesse du propos.
Alors question toute simple Stéphane, on est au Festival de Cannes, donc dans un lieu où on parle et où on monte des films de cinéma. Est-ce qu'En guerre ne ressemble pas au final trop à un documentaire ?
Alors ça, c'était le grand risque de l'affaire. Croyez-moi, au bout de 3 minutes, Stéphane Brisé évacue le problème avec une mise en scène assez impressionnante dans sa fluidité, au plus près de ses comédiens, la vedette Lindon et les amateurs, au plus près de l'action aussi. Il livre au final une réflexion passionnante sur l'origine et les effets de la colère, comme un complément à ce qu'on voit ou ce qu'on entend chaque jour aux infos.
Les images des médias montrent les moments de crise vertigineuse. Mais force est de constater qu'il ne montre pas, et ce n'est pas un jugement, c'est juste un constat, qu'il ne montre pas ce qui se passe en amont. Peut-être que ce n'est pas assez spectaculaire, toutes ces discussions, ça prend du temps, c'est très difficile de suivre un conflit syndical sur la durée. Mais la vertu aussi du cinéma, c'est d'agglomérer en 1h30, 1h45, plein de moments passionnants, mais qui sont parfois épars dans la vie. Et on raconte quelque chose de l'état du monde, et peut nous poser des questions. En tout cas, le film montre ce qu'il y a avant que ça dérape. En disant ça, je ne fais pas autre chose qu'un constat. Je ne suis pas un révolutionnaire avec un fusil à la main. Je ne suis pas le porte-parole d'un syndicat ni d'un parti politique. Je constate juste des dysfonctionnements et c'est là-dessus que je vais construire de la fiction.
Alors, reste maintenant évidemment une inconnue. Comment le jury et les festivaliers vont vivre l'expérience ? En 2015, la magie de la loi du marché avait opéré. Vincent Lindon s'attend, m'a-t-il dit, à une réaction atomique. Il décrit en attendant son état d'esprit avant la projection de ce soir.
L'appréhension, la peur, l'intimidation, la joie, l'enthousiasme. Je trouve ce film par rapport à la loi du marché atomiquement plus fort. Si vous me demandez ce que j'attends de Cannes, je vous répondrai pas. J'y vais fou de joie. C'est la plus belle plateforme du monde. Ça va être vu par énormément de gens de tous les pays étrangers, que ce soit des journalistes, des distributeurs, des producteurs, des intellectuels. On ne peut pas donner une plus belle chance à un film comme ça que le Festival de Cannes. C'est impossible, ça n'existe pas.
Vincent Lindon, donc à l'affiche de Anger, nouveau film de Stéphane Brisé. Notez-le, on l'a vu, nous, à Cannes. Il est projeté ce soir et il sort à 19h partout en France.
Quel est votre programme du jour à Cannes?
Oh, c'est pas mal. Rencontre avec Spike Lee, Lars von Trier, John Travolta tout à l'heure. Et puis alors ce soir, le très gros événement hors compétition, la projection de Solo, nouvel épisode tiré de l'univers Star Wars sur la jeunesse de Han Solo, réalisé par Ron Howard. On vous raconte tout ça, comme d'habitude, demain.
Avec grand plaisir. Merci beaucoup à l'un et à l'autre.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
Qu'avons-nous regardé hier soir à la télévision hier? Non, c'est pas maintenant? Si? Non? Ah, vous voulez les... Ah, très bien, les dictionnaires d'abord, avec grand plaisir. Ils font peau neuve chaque année, et à quelques heures d'intervalle, le petit Larousse et le petit Robert ont présenté leur millésime 2019. Laurent Marsic, bonjour.
Bonjour.
Chaque dictionnaire intègre des nouveaux mots et des nouvelles personnalités. Et vous avez épluché pour nous les listes de ces nouveaux entrants.
Oui, je vous ai posé le bébé à côté de vous, il est bien beau. Hein.
Gros bébé.
Il faut plus d'un an pour qu'un mot entre dans le Larousse que vous avez entre les mains, le petit Larousse illustré. C'est un peu plus rapide au Robert. D'abord, on repère le mot, son usage, sa popularité, sa récurrence d'utilisation, par exemple dans les médias. Prenons le mot « liker », directement venu des réseaux sociaux. Il entre dans le Larousse cette année. « Liker », c'est quand on aime quelque chose sur Internet. Oui. Mais avant cela, des lexicographes l'ont observé. Un comité l'a sélectionné et validé. 150 nouveaux mots dans le Larousse. Ceux de l'actualité, Brexit, micro-habitat, vapoteuse, boboïsation. Ceux du monde des arts, chaque soir de février, par exemple, apporte son lot de césarisés, d'oscarisés. Ceux qui reçoivent un César ou un Oscar. À côté de ces mots-là, on trouve aussi ceux du registre courant, familier ou régional. On s'aime à tous les mots, on se boujoute en Normandie, on se doucine aux Antilles, on donne un schmutz en Alsace, quand on se fait péter la miaille à Lyon, comprenez par là qu'on s'embrasse, parfois fortement. Et puis on remet aussi au goût du jour des mots et expressions qui n'étaient plus utilisés. Nos politiques le font parfois, souvenez-vous de la poudre de perlimpinpin du président Macron dans le débat de l'entre-deux-tours. Eh bien, il aurait aussi pu parler de lanternerie, de cacade et d'autres venez y voir.
Alors moi j'ai ouvert au hasard, je suis tombé successivement sur Chambol-Musigny et Alex Corton. Allez savoir pourquoi. Voilà. Alors, des mots nouveaux ou donc anciens, mais aussi des pages personnalités qui s'enrichissent.
Oui, du côté des noms propres, le footballeur brésilien Neymar, l'écrivaine Chantal Thomas entre dans le Robert illustré, l'athlète handisport Marie-Amélie Le Fur, la chef Hélène Darroze, l'actrice Emmanuelle Béart ou encore le contre-ténor Philippe Jarouski sont consacrés par le petit Larousse. Un honneur qui ne se refuse pas, explique le contre-ténor qui figure lui à la page 1609.
Ça a été une énorme surprise quand j'ai reçu le mail. J'ai l'impression qu'en fait, quand on rentre dans le dictionnaire, c'est très difficile d'en sortir. C'est vrai que ça fait une impression assez étrange. Mais de se dire qu'effectivement, quelqu'un qui va chercher mon nom dans le dictionnaire va le trouver, c'est quelque chose d'assez émouvant. Est-ce qu'on le mérite ou pas? Ça, c'est toujours subjectif. Je pense aussi que beaucoup de gens mériteraient de rentrer dans le dictionnaire. Donc le choix, je pense, est toujours subjectif. Mais ça fait plaisir, je pense, particulièrement pour moi, à une année où j'ai créé mon académie musicale à la scène musicale cette année. C'est peut-être aussi la reconnaissance aussi d'une forme d'engagement social aussi en dehors de ma carrière de musicien.
Et puis il y a celles et ceux qui ont l'honneur de figurer dans les deux dictionnaires, le prix Nobel de littérature britannique Kazuo Ishiguro et le spationaute français Thomas Pesquet figurent eux donc dans les deux dicos, Robert et Larousse, le prix autour de 30 euros.
Merci beaucoup de cette visite de nos dictionnaires et de leurs nouvelles éditions. Alors cette fois-ci, sont bien les audiences télévisées, Isabelle Morini-Bosque avec Médiamétrie.
Eh bien écoutez, ça va être très vite fait parce que Cyrus et Léana, il c'est deuxième logiquement et Die Hard 4 troisième sur M6. Celle qui écrase tout, c'est Jennifer sur TF1. 6 500 000 téléspectateurs pour traquer sur et 27% du public, c'est très très bien. Il y a un effet de Jennifer.
Bon, on se retrouve dans quelques instants pour parler de notre soirée télévisée. On va partir maintenant au vert, prendre l'air grâce à vous Sophie Orange. Bonjour.
Bonjour.
Vous nous emmenez dans le domaine de Chaumont-sur-Loire, merveilleux château qui accueille comme chaque année le Festival International des Jardins, un mélange de nature et de culture.
Et c'est la 27e édition dans ce cadre superbe. Chaumont, château du 15e siècle, passé notamment entre les mains de Catherine de Médicis et Diane de Poitiers. Ce château surplombe la Loire et ce matin, on va parler dans le château, mais dans le parc pour découvrir des merveilles. Une exposition à ciel ouvert, 25 jardins créés par des artistes de tous les horizons et tous les pays. Ce sont effectivement des artistes puisque chaque jardin est une œuvre d'art. Le domaine de Chaumont organise un concours international. 300 candidats ont répondu. 25 gagnants originaires de Russie, Corée du Sud, Japon, Allemagne, Italie, États-Unis, France quand même, et de tous les univers. C'est ça qui est formidable. Des paysages paysagistes, hein, évidemment, des botanistes, des jardiniers, mais aussi des architectes, un anthropologue, un scénographe, une metteur en scène, un créateur de BD, une plumassière, elle travaille les plumes pour les costumes, des designers, un vigneron, un photographe. Tous ont relevé le défi, construire un jardin sur une passerelle de 250 mètres carrés autour d'un thème, la pensée. Vous voyez le double sens, penser, oui. La fleur et le fait de penser.
Ah oui.
Thème choisi par Chantal Colleux-Dumont, la directrice du domaine de Chaumont-sur-Loire.
Les jardins ont toujours eu un rapport avec la pensée. Platon, le verger de Platon, les jardins d'Épicure, le jardin des Mille et une nuits, les jardins de Jean-Jacques Rousseau sont des jardins où l'esprit va se libérer. On est dans des espaces de méditation. La pensée va se développer de façon beaucoup plus fluide. C'est l'endroit idéal pour réfléchir.
Et le résultat est bluffant. Chaque jardin a un nom, toujours très poétique, comme une danse des mots. Des jardins franchement très bien pensés.
Alors, quel est le plus réussi? Quel est, vous, votre jardin préféré?
J'étais sûre que vous alliez me poser la question et je ne vais pas y répondre. Vous imaginez, c'est impossible d'y répondre. Je vais plutôt faire autrement. Je vais vous parler du jardin le plus poétique, celui que j'ai trouvé le plus inspirant en tout cas. Le jardin des Sept Vallées, indirectement inspiré d'un conte persan du XIIe siècle. Une histoire d'oiseaux qui partent à la recherche d'un roi. Ce jardin est en spirale et au sommet, surprise, un miroir dans lequel se reflète le ciel. Et vous, si vous vous penchez, une forme d'élévation spirituelle. Le plus épuré, juste de l'eau, et un érable rouge planté au milieu de ce petit lac. Le nom de ce jardin, la possibilité du Nil. Allusion au livre de Michel Houellebecq, jardin réalisé par Uli Ekman, architecte allemand qui s'est posé une question.
Est-ce possible de planter un arbre au milieu d'un lac?
Alors, à votre avis?
Et la réponse est oui.
Eh bien, il faut y aller pour voir. Le jardin le plus écolo, un temple à la nature, un jardin planté sur de la paille, donc sans terre. Les jardins littéraires, livres de sable inspirés de l'œuvre de Borges, une déambulation dans le sable au milieu d'un labyrinthe de structures en bois bleu. Ou alors, entrer dans la pensine. La pensine, c'est un clin d'œil à Harry Potter. C'était la pensine qui reçoit les pensées et les souvenirs. Le plus original, c'est celui-là, le jardin des supplices un peu provoquant pour Florent Boursereau, qu'il a imaginé. Le jardin peut suggérer l'épouvantable.
Généralement, on le voit comme l'Éden, un lieu reposant, de quiétude. Et là, on s'est dit qu'on allait considérer tous les actes du jardinier comme des actes de torture. On passe de supplice en supplice. Derrière, en fait, c'est un présentoir à outils. On peut les voir aussi comme des outils du bourreau.
Mais c'est vrai parce que le jardinier, il coupe quand même. Il taille, il arrache aussi. Et la mosaïque rouge au sol symbolise le sang qui coule. Du sang aussi dans ce jardin russe. Un cœur qui tape, Avant-Garden, un jardin rouge et noir inspiré par deux artistes russes du XXe siècle, conçu par une équipe de Saint-Pétersbourg.
Au cœur du jardin, ce magnifique arbre et ces vaisseaux sanguins qui descendent de l'arbre, qui vont pulser comme le cœur que vous entendez ici. Le système cardiovasculaire irrigue tout le jardin. Au fond, l'herbe noire, le long des tuyaux, vous voyez des petites fleurs rouges qui symbolisent les gouttes de sang. C'est aussi le signe d'éternel recommencement, en fait.
Et en plus, on a appris ce matin sur RTL, grâce à Virginie Garin, que les arbres avaient des pulsations et battaient. Vous voyez, l'art et la science se retrouvent. Le jardin le plus malicieux, allez, c'est celui-là, le jardin des voyelles, créé par deux représentants du mouvement Loulipo, vous savez, inspiré par les jeux autour des mots de Queneau et Rimbaud. Les consonnes sont en métal, bon là c'est facile à lire, mais pas les voyelles. À vous donc de réfléchir pour lire le jardin. Vous allez comprendre grâce à l'humour de Paul Fournel, l'un des concepteurs.
Chaque voyelle a sa couleur, chaque voyelle est représentée par sa fleur. Vous êtes ici sur un petit balcon et vous devez lire le poème. Donc il vous faut deviner à quelle couleur correspond quelle voyelle. Peut-être que le blanc, par exemple, pourrait ressembler à un E. Je dis ça à tout hasard. Hein. Peut-être que le U pourrait être orangé, par exemple. Hein. Je ne sais pas. Allez-y.
Les formes se répondent. Là, il y a aussi... murmure des fleurs. Et là, ah oui, du seul murmure des fleurs. On est pas mal, hein, on est pas mal. Et ensuite...
Vous voyez bien que c'est magnifique. Un jardin qu'on peut bouquiner comme ça, tranquille. C'est pas épatant, ça?
Et c'est vraiment très réussi. J'aime beaucoup aussi le jardin de la pensée unique, avec 40 pensées de toutes les couleurs. Vous l'aurez compris, chaque jardin raconte une histoire, son histoire. Mais bien sûr, après, c'est à vous d'imaginer la vôtre. Vous déambulez, vous flânez, vous méditez. visiter, vous penser. Le Festival international des jardins vous donne rendez-vous jusqu'en novembre prochain.
C'était très agréable. Je précise que lundi, nous y serons en direct avec toute l'équipe de La Curiosité est un vilain défaut, en l'occurrence Thomas et Sidonie. Et puis je précise aussi qu'à chaque fois, vous venez avec des photos, donc c'est très agréable.
Mais voilà, pour suivre sur RTL.fr.
Vous nous faites vivre à nous et à ceux qui nous suivent sur RTL.fr ces moments de grâce. A tout de suite pour la télévision.
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Yves Calvi.
Alors, parmi les nouveautés de notre soirée télévision, on va signer la série Safe sur C8, Isabelle.
Oui, avec Audrey Fleurot et Michael C. Hall. Vous savez, c'est le tueur de Dexter.
Ah oui, très
bien. C'est signé Arlen Coben et c'est, si j'ose dire, mortel.
Bravo. L'autre nouveauté, c'est The Island Célébrité. Je vous laisse traduire. Un programme d'aventure auquel on vous avait d'ailleurs proposé de participer.
Oui.
Et vous avez dit
Il fallait s'absenter 3 semaines au moment de Noël, donc je n'ai pas pu. Mais je regrette vraiment de ne pas avoir fait cette aventure tenant de The Island et de À l'état sauvage avec des individus obligés de s'entraider sur une île vierge du Panama sans eau ni nourriture. À l'inverse de Koh-Lanta, c'est basé sur l'union d'un groupe où on trouve Camille Serre, la Miss France, des champions olympiques comme Gwendal Pesra, le patin, Émilie Gomis, le basket, magnifique créature. Amélie Levaux, la natation, le rugbyman Christian Califano, avec qui j'avais fait Pékin Express, le chorégraphe Brahim Zaima, très serviable, très efficace, ou encore Stormy Bugsy et la âme. Les voici tous les deux avant le départ, le premier avec ses potes, la seconde avec son coiffeur.
Allez. J'ai accepté de participer à l'émission The Island Célébrité, au Panama, sur une île en galère, avec Mike Onlouf.
Je vais te demander de me raser la tête.
Ah bon ?
Si j'ai décidé de faire cette aventure, c'est pour montrer une autre facette de l'âme. Une lame sans perruque, sans chapeau,
une lame de
fond, sans maquillage.
Si je veux dire. Alors, leur cornac, c'est bien sûr l'aventurier de l'extrême Mike Horn, dont je finis par me demander s'il n'est pas un peu sadique.
Pour moi, c'était aussi une expérience de voir quelqu'un qui est un peu connu, comment ils sont vraiment sur une île, quand ils sont vraiment seuls, quand ils doivent trouver à manger et puis à boire eux-mêmes. Comment ces personnalités, des fois égoïstes, peuvent vivre ensemble. Vivre pour les autres, c'est là où ta vie va devenir beaucoup plus facile. Mais si tu vas en fait sur l'île où tu penses qu'à toi, tu vas passer une sale 3 semaines.
Voilà, ça sera le cas pour 2 ou 3 d'entre eux. Alors, mais la machine de guerre, c'est Amélie Levaux, donc 4 fois médaillée olympique. Plus facile à nourrir que Christian Califano, qui est une sorte de chaudière qui doit être constamment en activité, qui n'a pas été son meilleur pote apparemment sur place. Ah. Son mental de champion olympique à Amaury, l'a beaucoup aidé à se concentrer, à manger peu. Mais moi, je croyais en revanche qu'il refusait toujours ce genre de programme.
On m'a dit, veux-tu faire The Island? J'ai dit, mais jamais de la vie. Pour moi, au début, j'aurais dit, c'est de la télé-réalité, donc j'ai pas envie. Se retrouver avec des fous dans une maison, pas la peine. Au bout d'une semaine, on m'a rappelé et je me suis dit, je vais faire ça pour mon fils. Il va pouvoir se la raconter à l'école après.
Alors, on peut être une grande machine de guerre et être douillet. Est-ce que vous êtes douillet ou aussi dur que votre coin le suggère?
Non, je suis pas dur du tout. C'est plus simple de dire comme ça, c'est surtout les bêtes. Je suis pas très fan. Peu importe la bête. Je suis pas très à l'aise, on va dire. Moi, je m'attendais à une île comme j'ai l'habitude d'en voir. Tout beau, tout propre. On arrive sur une plage, des milliers de crabes rouges bougeaient dans tous les sens. En fait, à un moment donné, on se rend compte de tous les déchets que la mer ramène. Il y avait des barils, des bouteilles, il y a de tout. J'avais vu un frigo. Et des tongs, des crocs, des chaussures, il doit y avoir 5000 paires. Des bouteilles d'alcool pas ouvertes, hein. C'est hallucinant. J'arrive même pas à trouver les mots. Depuis que je suis rentré, je fais très attention à ce que j'achète. Je gère les emballages.
J'y avais pas pensé, mais avoir si peur des animaux et s'appeler le veau, c'est quand même bizarre.
C'est le jour des mots.
Elle a 11 ans et demi, l'âge mental. Non, mais je rêve. C'est pas vrai.
Alors, mon bémol, c'est qu'au début, ça m'a un peu choqué. Pour leur montrer que comment se comporter avec les animaux sauvages, ils jettent au milieu d'eux un petit crocodile qui doit être absolument terrifié.
Bonhomme.
Et là, j'ai trouvé qu'ils pouvaient le jeter et de moins haut et moins brutalement.
C'est ce soir sur M6. Allez,
mais j'aime beaucoup Mike Horn.
Pour accueillir Julien Courbet. On arrête nos recettes de cuisine parce qu'il est grand temps de retrouver Julien Courbet.
Oui,
bonjour Julien.
Pourquoi pas, moi je veux bien que vous continuez un peu.
Bon, on était dans l'escalope de veau à la crème, vous voyez, avec des
bonnes. Vous étiez dans l'escalope de veau.
Oui, parfait.
Qu'est-ce qu'elle fait Isabelle, quand elle est chez elle, au fourneau?
Ah oui, Isabelle. Que faites-vous quand vous êtes au fourneau chez vous? Vous demande votre camarade.
Moi, je ne suis jamais au fourneau. Je suis jamais au fourneau.
C'est pour ça que son mari a mauvaise mine. Elle ne lui fait jamais à manger.
Vous ne trouvez pas lichon, c'est ça?
Un peu, cette année.
Un peu pas lichon, c'est vrai.
Écoutez, encore un bon moment de radio que nous avons offert aux auditeurs qui, décidément, sont gâtés en ce moment.
Moi, je compte sur vous pour l'édition du best-of.
C'est tous les jours maintenant. Merci, mon
Bonne journée.
Bonne journée.
Salut.
Allez, c'est parti.
Vous écoutez RTL.